Alors, on était au 5 la dernière fois, ça fait 6 maintenant ?
Non,
on est au 5.
On a fait.
Ah oui.
Oui. Donc, on est au 6. Que vous savez que c'est la dernière fois pour moi en anglais.
Quoi?
Savez-vous que c'est notre dernière fois en anglais? La version anglaise? Le 6 c'est sur la dernière double fois. La dernière fois avec double colonne. Non, c'est juste un conseil d'ami. Une remarque comme ça en passant. Pas beaucoup mieux en... en araméen. Ça va jusqu'à 8, et mais seulement le 7 et le 8 sont sur la même page, et si c'est pas trop long, bon, écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Rabbi Yoshua de Sichanin de nouveau. Alors, Vikru Elecha, Para Aduma. Donc le passou continue et nous dit que Hashem dit à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël prendront Vikru Elecha, ils l'amèneront vers toi, Para Aduma. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Chanina, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, est-ce que on avait vu ça déjà ensemble? Lecha, Hashem a dit à Moshe, Lecha ani megale ta'am para, aval le'acher chuka. D'amar Ravuna, k'tiv, Ravuna a dit, dans le pasouk il est, dans Tehilim c'est marqué, ki ekach moed ani mesharim eshpot, ou k'tiv et c'est marqué dans le Navi, ve'aya bayom ahu lo yeh or yekarot ve'kipaon. Donc, le Rav Yossi Chanina ramène donc ce inyan que ce n'est qu'à Hachem que qu'à Moshe que je dirais ce qu'il en est. Et Ravuna a dit, ben d'un côté, c'est marqué dans les Teilim, lorsque le temps sera adéquat, et Kach Moed, lorsque je prendrai le temps, moi-même je jugerai. Ça veut dire que quelque part, on a l'impression que il y a le jugement des hommes, et puis il y a le moment où Hachem dit, ben il arrive un moment où c'est moi-même qui vais juger. Jugerai évidemment avec équité. C'est aussi marqué et il arrivera en ces temps, Yaya Bayomahu, ce jour-là, l'Oïe, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus que Yekarot Vekipaot, Vekipaon, pardon. Yekarot, c'est des nuages. Et du kipaon, et on va voir ce que veut dire ce kipaon. Parce que le Midrash dit, normalement on devrait avoir un vav. Mais c'est avant kipaon, c'est pas un vav, c'est un yud. Donc c'est écrit Yekipaon Ktiv. C'est-à-dire Dvarim amkusim mikem baolam hazeh atidim liyot tsofim leolam haba. כעדן סמיה דצפה, דכתיב והולכתי עברים, בדרך לא ידעו. Donc, c'est écrit d'une drôle de forme, c'est écrit avec un yud au lieu d'un vav. Et du coup, ce yud devant, il fonctionne comme indiquant un futur. Le yud devant, c'est comme si on construisait une forme du futur. Et on dit, ben, ça veut dire en fait... Des choses qui sont cachées, qui vous sont cachées dans ce monde-ci, dans le monde à venir, vous les verrez. Et comme quelqu'un qui serait aveugle et qui retrouve la vue. Bon, c'est-à-dire le passage dans l'Amaba va vous faire vivre en quelque sorte cette situation de quelqu'un qui, ayant perdu la vue, la retrouve. Kaden Samia de Tsafe. C'est marqué dans le Passouk, effectivement, que ça arrivera. Le Navi Yeshayahu dit Olarti Ivrim Bederech Loïdaou. C'est-à-dire, Hachem dit je guiderai, j'amènerai des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. L'Oïdaou qui ne connaissait pas. Et c'est marqué ensuite Ela Advarim Asitim Velo Azavtim. Ces choses-là, je les ai faites et je ne les ai pas abandonnées en quelque sorte. Alors, dans la traduction en anglais, vous avez sur le verset de Yeshayahu, un peu plus que ce que nous avons dans le texte en hébreu. Le texte en hébreu, c'est marqué Orve, c'est donc simplement oui, c'est pas, il n'est pas marqué chez nous que Olarti Ivrim Beder Loïdaoum, et c'est tout, c'est Loïdaou, et tandis que dans la traduction en anglais, vous avez trois petits points, et ensuite, c'est-à-dire je vais rendre l'obscurité lumineuse devant eux. Nous, on ne l'a pas en hébreu. Bon. Alors, on fait remarquer que le pasouk qui dit Elo advarim asitim velo azavtim es, c'est pas marqué je les ferai, mais asitim, je les ai faites. C'est pas essai. Enktifkan. Et là, asitim. Les effets. Chez Kvarasiti. Ces choses-là, je les ai déjà faites. À qui, pour qui est-ce que je les ai déjà faites? Les Rabbi Akiva Vechaverav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dvarim Shelo Niglu. Des choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu. Niglu le Rabbi Akiva Vechaverav. Elles ont été dévoilées à Rabbi Akiva et ses collègues. Et le pasouk dans Iov qui dit Vechol yekar ra'ata eno, tout ce qui est précieux, son œil l'a vu, Zé Rabbi Akiva vechavera. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Chanina, Remez, Shekol haparot betelot, Veshelcha kayemet. Ça veut dire, une bonne chose, toutes les parottes, c'est-à-dire en fait toutes les vaches, mais il veut dire voilà, toutes les vaches rousses vont disparaître et la tienne va durer. Alors ça correspond à ce qu'on sait par ailleurs, que la para aduma que Moshe Rabbeinu a faite, c'est avec cette para aduma qu'on a préparé toutes les parottes adumot ultérieures. On a une Kabbalah qui en aura en tout une dizaine. Et elles sont toutes préparées avec la para de la Douma de Moshe Rabbeinu. Donc elles finissent toutes par s'épuiser, par disparaître. Et celle de Moshe Rabbeinu, qui est donc la première qui a été faite, celle-là, elle continue d'exister. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on a vu avant? C'est pas tellement évident. C'est comme si à Moshe Rabbeinu, Hachem a montré quelque chose, il lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres. Et après, on dit, semble-t-il, que les autres, en soi, à savoir Rabbi Akiva, il a même eu plus que Moshe Rabbeinu. Et c'est comme si la fin du texte venait dire, non mais c'est pas ça que ça veut dire, quand c'est pas que je t'ai donné un tam particulier que j'ai pas dévoilé à Rabbi Akiva, qui aurait été dévoilé à Moshe Rabbeinu, mais c'est que la parade de Moshe Rabbeinu, elle va survivre à toutes les autres parotes. Voilà le texte, qui a l'air un peu étrange d'ailleurs. Si je savais. A priori, elle doit être cachée quelque part, oui. On parle des cendres, n'est-ce pas? Ça, de l'urne dans laquelle il y a les cendres de la vache rousse de Moshe Rabbeinu. Alors, on va d'abord voir ce que les commentateurs nous disent là-dessus. Alors, regardez le Etz Yosef d'abord. Il commence assez haut dans la page. Donc, Vikru Elecha Fara Aduma, Amar Rabbi Yosef Berab Hanina, donc Amar Lo Akadosh Baruch Hu Moshe, Lecha Ani Megale Tam Para. À toi, je dévoile la raison de la para. Alors, l'Etz Yosef dit, Diek Ze Midirtiv Elecha. Bon, il déduit ça, le Midrash, du fait que c'est marqué Vikru Elecha. Ils amèneront, c'est-à-dire à Tam, le fils et Yeshba Mispar, même tête, que Dita, l'El, Shiva Parot, Shiva Azayot, etc. Zeremez, Shein, le Zakek, le Tsaref, Kol Inyana, Im Aliede, même tête, Sharebina, Shelo, Niglu, qui im le Moshe. Donc il ramène ici un Kli Yakar, qui est un commentaire sur le Chumash, qui dit qu'en vérité, l'histoire a à voir avec 49. Toujours, il y a 49 tamim de pureté, 49 visages ou tamim d'impureté. Et il cite quelque chose qui a été dit plus haut, je ne sais pas où exactement, mais en tout cas, comme le semble-t-il, les tamim de la paradouma, d'après cela, ils ne se comprennent qu'en utilisant ces 49 charebina, 49 portiques de sagesse, qui n'ont été ouverts qu'à Moshe Rabbeinu. Donc, ça veut dire, la paradouma, elle nécessiterait d'avoir accès d'abord au niveau le plus élevé qui soit de connaissance, de sagesse, et ce niveau-là, il n'a été atteint que par Moshe Rabbeinu. Alors, d'où est-ce qu'on sait ça, semble-t-il? Parce que Ravuna, il a été d'Oresh, le pasuk de Tilim, qui écarte Moed. Ani mesharim eshpot. Littéralement, c'est quand je prendrai le temps, je déciderai que ce sera le moment, c'est moi qui jugerai mesharim en toute équité. Yachar. La racine, c'est Yachar. Alors, le Etz Yosef dit, qui est kach moed, le midrash shocher tov, on dit qui est kach moed, que chez Yavo, oto moed, qui le Moed, Moadim, etc. Ota Sha'a, Ani Mesharim, Eshpot. Et ce Mizmor, ce Teilim là, qui est cité, Ce Tehilim-là, il parle de Matan Torah. Donc il parle de ce Tehilim parle de Matan Torah. Donc en fait, de la même manière que vous avez accepté Anochi Hashem Elokecha, d'accord, ben vous allez, je vais vous mettre à disposition tout le reste aussi. Et le, il dit que le début du Mizmor annonce les raisons des mitzvot qui sont déjà dévoilées. Et lorsqu'arrivera ce fameux Moed Moadim, ce temps parmi les temps, c'est-à-dire l'Atid Lavo, c'est-à-dire dans le futur, alors Az Ene Ivrim Batora, les yeux des aveugles dans la Torah s'ouvriront donc. Et une partie des chukim vont devenir des mishpatim. Les mishpatim, c'est les choses qu'on comprend. Quand je vais, les choses vous seront compréhensibles. Daino muskalim, ça va être donc des éléments que le sechel va entendre. Le sechel va accepter, ça va devenir, on en connaîtra une certaine rationalité, disons. Alors il amène ce pasouk, mais ce pasouk il a une difficulté parce que au lieu d'un vav, il y a ce yud qui veut dire donc yekipaon, ktiv, yud, moré aleatid, justement, qui indique le futur. Et il dit justement que la suite du verset dit ben, c'est à peu près comme quelqu'un, comme des gens qui étaient aveugles jusqu'à maintenant et qui maintenant se mettent à voir. Donc les Bnei Israël, dans la Torah, ils vont commencer à comprendre des choses, là, Atid Lavo, des choses qu'ils n'avaient jamais comprises jusque-là. Et puis ensuite, on nous dit, justement, il y a un problème, c'est que, puisqu'on parle que du futur, il viendra un temps où, c'est-à-dire là, Atid Lavo, où les Bnei Israël vont comprendre. Alors, on amène ce verset de Yeshayahu qui dit Ele advarim asitim velazabtim, ces choses là je les ai faites et j'ai pas abandonné de les faire. Or ce pasouk dans son contexte il devrait être écrit au futur, et l'expression asitim c'est pas esse, c'est je les ferai, mais c'est pas ce qui est écrit. Il est marqué asitim, ça veut dire c'est comme si Hachem on comprend qu'il va faire quelque chose dans le futur, et il dit, mais ces choses-là, je les ai déjà faites. Alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça a déjà fait? Ce dévoilement qu'on aura dans le futur, en réalité, j'ai déjà dévoilé. En quelque sorte, comme si on disait, le futur est déjà arrivé. Le futur en question, il a déjà eu lieu. Alors c'était un futur pour Yeshayahu HaNavi. Au moment du Navi, c'était un futur, évidemment. Mais pour nous qui lisons, pour le Midrash lui-même d'ailleurs, au moment où ce Midrash est écrit, pour nous qui lisons le Midrash, c'est un passé parce que ces choses-là ont eu lieu pour Rabbi Akiva et Chaverav, pour Rabbi Akiva et ses collègues. Donc le futur de Yeshayahu, pour nous c'est un passé, pour le Midrash aussi c'était un passé. Alors le verset, Yeshayahu lui-même en quelque sorte nous indiquait Azavtim, je les ai fait. Il faut que tu comprennes que, bien que je te parle de l'Atid Lavo, mais par rapport à l'Atid Lavo, je les aurais déjà fait. J'avais déjà fait les choses aussi. Et donc, quoi, on parle justement de ces choses que les Bnei Israël ne pouvaient pas comprendre. Et il dit, j'ai fait ces choses. Et on ne dit pas, j'ai fait ces choses au temps de Moshe Rabbeinu. Je les ai dévoilées au temps de Moshe Rabbeinu. On dit, le Rabbi Akiva et Chaverav. J'ai déjà fait ça pour Rabbi Akiva et Chaverav. Et de là, on déduit, bah effectivement, des choses que même Moshe Rabbeinu que même à Moshe Rabbeinu, elles n'ont pas été dévoilées. eh bien, elles le seront, ou elles l'ont été, disons, à Rabbi Akiva. Alors, ces choses-là. Bon. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut lire? Rabbi aussi dit, où est le remez? J'ai collé la parotte. Il y a un remez ici que toutes les vaches rousses qui ont été faites après ont disparu, mais celle de Moshe continuera d'être là. Alors le Yosef dit, j'ai collé la parotte betelot, dit exé midirtiv elecha, toujours la même chose. Toujours le Elecha. Lui, il y a autre chose, Elecha. Elecha ne veut pas dire, il n'y a qu'à toi que je dévoile la raison, mais on t'amènera, toutes les paroles vont être amenées à toi. Il est plus près du texte, n'est-ce pas? Veikru Elecha, ils prendront toutes les paroles vers toi. Donc c'est plus que, ça s'entend mieux que de dire que toi seul, tu connaîtras la raison. Tu connais la raison, je ne dévoile pas la raison aux autres. Donc il colle beaucoup plus au texte. Le lam inikret al shimcha para she'asa Moshe bamidbar. En vérité, c'est toujours, toutes les parodes vont être appelées quasiment les parodes de Moshe, parce qu'on va toutes les faire à partir de la para de Moshe. Ça c'est ce qu'on a vu là dans le Etz Yosef. Alors le Marzou, là, le Pirusha Marzou, celui de la colonne de gauche, ben il explique aussi toujours à cause du Elecha, donc le Tam. Bien. Je ne crois pas qu'ils disent quelque chose de complètement nouveau. Les autres, le Farchim non plus, je ne pense pas. Bien, c'est la question. Donc, qu'est-ce que ce paragraphe nous apporte de nouveau ici? Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a, en fait, il y a deux personnages dans l'affaire. Il y a d'un côté Moshe Rabbeinu, de l'autre côté, il y a Rabbi Akiva. Akiva Bechaverav, mais c'est Moshe Rabbeinu d'un côté. C'est-à-dire, on pourrait dire la Torah chez Bichtav d'un côté, la Torah chez Baalpé de l'autre. Rabbi Akiva, la Torah chez Baalpé. Et le pasouk a l'air de commencer en disant que c'est Moshe Rabbeinu qui a un statut complètement à part. Et à la fin, on voit que c'est Rabbi Akiva qui dépasse Moshe Rabbeinu, parce que des choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu l'ont été à Rabbi Akiva. Alors, cette idée que les choses ont été dévoilées à Rabbi Akiva, elle est construite sur le fait, qu'on a vu déjà, que le verset qui a l'air de parler du futur, tout à coup, il y a un ennui, parce que tout à coup, ce verset parle au passé. Alors, on a un contexte qui est le futur, et puis dans le futur, il y a un passé, et c'est de là qu'on apprend que ça a été dévoilé à Rabbi Akiva. Comme si d'une certaine manière, Rabbi Akiva était quelqu'un qui appartient au futur et qui a déjà été donné. Il nous a été donné en avance, en quelque sorte. Il a été mis à la disposition du clan Israël en avant. C'est avant terme. On aurait dû, semble-t-il, normalement attendre Rabbi Akiva, ce dévoilement de Rabbi Akiva, donc probablement Rabbi Akiva qui viendrait dans le futur, comme un achèvement, si on veut. Et il semble que on nous dise, non, c'est... Il a déjà eu lieu. Comme si Hachem nous avait fait une faveur, en quelque sorte, et qu'il avait avancé il nous avait avancé le futur. Il l'avait rapproché, et ce futur n'est plus un futur dont on serait en attente, mais on l'a déjà eu, on l'a. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que ça change pour nous? Hachem l'a dévoilé Rabbi Akiva Chaverav, mais Rabbi Akiva Chaverav ne nous l'ont pas donné. Nous, on est toujours aussi ignorants qu'on l'était dans ce domaine-là. Donc la question est là un peu. À quoi ça a servi, si on peut parler comme ça, que Rabbi Akiva Chaverav l'ait-tu, si nous ne l'avons pas? D'ordinaire, les enseignements de Rabbi Akiva Bechaverav, nous les avons. Mais cet enseignement-là de Rabbi Akiva Bechaverav, nous ne l'avons pas. Ces choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe ont été dévoilées à Rabbi Akiva. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien, que Hachem nous a déjà tout dévoilé? Pardon, ce que... Non. Le Midrash ne dit rien de cela. Il dit seulement les choses que vous ne comprenez pas, etc. Elles vont vous... Dans le futur, le futur, je vous les donnerai à comprendre. Et puis maintenant, on dit, mais en fait, je les ai déjà donnés à Rabbi Akiva et Chaverav. Non, je ne crois pas, je n'ai pas l'impression. Seulement, la question que je voudrais poser ici, c'est justement celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je l'ai donné à Rabbi Akiva Vechaverab, est-ce que ça veut dire que nous les avons? Rabbi Akiva, il a vu Kol Yekar Ataeno. Il a vu tout le précieux, tout ce que. Il a vu tout ce qu'on pouvait voir. Alors, ils expliquent tout ce que. Moshe Rabbeinu, comme je vous ai plusieurs fois dit déjà, que Moshe Rabbeinu, il a reçu tout ça, tous ces enseignements, mais de façon un peu compacte. Et ce n'est que chez Rabbi Akiva que ça s'est vraiment ouvert, déployé. Alors, est-ce que finalement, nous, tout notre enseignement dans la Torah chez Balpé, c'est systématiquement, comme on dit, Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir, Balibé de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, les enseignements de la Mishnah, tels que nous les avons, ceux qui sont en tout cas anonymes, viennent de Rabbi Meir, mais tout ça, c'est d'après Rabbi Akiva. C'est-à-dire, on a l'impression que les Mishnayot, viennent de Rabbi Akiva. Les enseignements, la mise en forme, c'est Rabbi, bien sûr. Mais les contenus sont des contenus qui viennent de Rabbi Akiva. C'est lui qui a complètement révolutionné la chose. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de choses de choses auxquelles les hommes n'ont pas accès? Rabbi Akiva les a reçues, et Rabbi Akiva nous les a mises à disposition. Seulement, il y a des choses qu'il a mises à disposition, c'est très ouvert, des choses qu'il a mis à disposition qui sont réservées pour certains et pas, ils sont pas à disposition de tout le monde. Merci. Parce qu'il y a des choses que Rabbi Akiva voulait pas qu'elles soient à la disposition de tout le monde. Toutes les Haggadot pratiquement qui ont des drôles de formes où on dit des drôles de choses, si vous voulez, c'est pas du tout que Rahamim disait n'importe quoi comme le Maral, mais pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est que les Rachamim, il y a des choses qu'ils ne voulaient pas dévoiler à monsieur et madame tout le monde. Donc ils les ont dit d'une façon qui peut paraître ridicule pour que les gens qui n'ont pas vraiment envie de s'accrocher ne s'accrochent pas et qui passent leur chemin et disent que ce sont des bêtises. Ok, très bien, c'était pas pour toi, donc c'est parfait que tu t'en occupes pas, mais c'est des choses qui sont très riches, simplement comme le Maral le montre à l'envi dans Be'er HaGola. Il montre à chaque fois ces choses que certains disent, dont certains disent qu'elles sont ridicules, qu'elles sont fausses, etc. Exactement de quoi on parle. Le Maral décrit qu'il y a plein de chokhmah. Simplement, lui, il a ouvert les choses. Certaines, il en a ouvert quelques-unes pour que on sache qu'il y a du contenu. Bien, il y a d'autres choses qu'il n'a pas ouvertes parce que c'est effectivement, même pour les gens qui peuvent lire le Maral, c'est peut-être pas à leur portée, peut-être c'est réservé à d'autres.
J'ai entendu dire que certains rabbins, spécifiquement à notre époque, souhaiteraient ouvrir certains dévoilements. Est-ce que vous êtes confronté aussi à cela, ou est-ce que c'est...
Qu'est-ce que ça veut dire, ils veulent ouvrir? Bon, il a sûrement développé des choses, il a mis à la portée de certaines gens, mais bon, il y a des choses que même lui non plus, auxquelles même lui non plus n'avait pas accès, je veux dire.
Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose qui est fait par vous, vous êtes confronté?
Non, mais moi je ne suis pas confronté à ça, moi je ne comprends rien à ces choses-là non plus. Pas de problème là-dessus. On ne fait rien du tout. Alors, bon. Alors la question c'est est-ce qu'il reste quelque chose qui n'est pas dévoilé ou est-ce qu'il n'en est rien? Les choses sont dévoilées. Rabbi Akiva, il a fait tout le travail. À lui, on lui a tout montré. C'est clair qu'à lui, on lui a tout montré. Ça, c'est ce que dit le texte. Mais est-ce que les choses d'avoir été montrées à Rabbi Akiva, elles sont réputées dans le monde maintenant? Ou est-ce que ça a été montré à Rabbi Akiva, puis ensuite c'est resté toujours fermé pour tout le monde? Rabbi Akiva avec Haverav, hein, ses collègues. Ou est-ce que c'est maintenant eux qui ont dit redistribuer les cartes? Ils ont décidé comment est-ce qu'on allait formuler les choses et qu'est-ce qu'on allait laisser facilement accessible, qu'est-ce qu'on va laisser moyennement accessible, et qu'est-ce qu'on va laisser difficilement accessible. Probablement tout, c'est marqué un rabbi qui va tout. Ça, c'est pas moi, hein, c'est le Midrash.
Oui.
Oui, alors vous savez pas, je me suis peut-être pas fait bien comprendre. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que la Torah chez Balpé, tout ce que Rabbi Akiva a dévoilé, a déjà été montré à Moshe Rabbeinu. Mais seulement ça a été montré, vous avez donné l'image d'un éventail. Vous avez un éventail, quand vous le refermez, vous voyez sur l'éventail, sur le bord, vous voyez les couleurs, des couleurs de l'éventail. Tout y est, mais vous ne voyez pas, les choses ne sont pas déployées. Quand vous ouvrez un peu l'éventail, alors vous voyez aussi des motifs. Peut-être qu'il y a des couleurs qu'on ne voyait pas sur la tranche, mais qu'on voit maintenant, parce que c'est ouvert. Et plus on va ouvrir, plus on va voir les motifs. Et au fur et à mesure qu'on ouvre, si on s'arrête à un moment donné, ben on a l'impression, voilà, ben c'est ça l'état de la Torah chez Balpé. Mais tout à coup, quelqu'un d'autre vient, il ouvre encore un peu plus. Tout ça, Moshe Rabbeinu l'a reçu, mais il ne l'a pas reçu ouvert. Ce que les Chachamim nous disent, quand Moshe Rabbeinu a demandé à voir toutes les générations, il a vu la génération de Rabbi Akiva, et il est allé s'asseoir au fond de la classe chez Rabbi Akiva, et il n'a rien compris, tout Moshe Rabbeinu qu'il était. Donc il s'est senti mal. Ça veut dire, je comprends, qu'est-ce que c'est que cette Torah qu'il enseigne et que je ne comprends pas. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva, dans son développement, il dise, on a posé une question, il a dit, ça c'est halakha de Moshe Missinaï. Ah, c'est donc des choses que j'ai reçues au Sinaï. Donc à la limite, on peut imaginer que Moshe Rabbeinu s'est retrouvé sur ce sujet-là à tenir les deux bouts. Il avait la chose telle qu'elle était évoluée, elle avait évolué telle que Rabbi Akiva la disait, et il a compris de ce qui avait été dit, là du coup en tenant les deux bouts il a réussi à reconstituer le chemin. Tant qu'il n'avait que la version de Rabbi Akiva, il ne savait pas d'où on partait, ça tenait sur rien du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement ces choses là, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu. Il a tout reçu, mais ce n'était pas dévoilé, ce n'était pas ouvert. Donc il n'a pas su le... Vous comprenez bien que quand vous ouvrez l'éventail, il y a des motifs qui avaient complètement échappé. Lorsque l'éventail était fermé, ou quand il était seulement à moitié ouvert, il y a des tas de choses qu'on ne voit pas. Tu les vois seulement hein, quand tu ouvres tout. Alors tu vois le détail, toutes sortes de détails qui donnent souvent un sens complètement différent. D'accord ? C'est-à-dire que quand on ouvre, on peut imaginer qu'il s'agit de telle et telle figure. Quand on voit le détail, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Et donc, c'était pas complètement faux, mais c'est pas vrai, c'était pas encore vrai. C'est un peu comme une théorie qui est une approximation. Elle est fausse, la théorie est complètement fausse. Mais l'approximation peut être très bonne. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez une approximation. Imaginez, vous prenez Newton par exemple, c'est une très bonne approximation, c'est faux, mais c'est une très bonne approximation tant qu'on ne se promène pas à des vitesses par exemple proches de la vitesse de la lumière. Vous n'avez rien à gagner à prendre les formules de la relativité tant qu'on se promène à 80 km/h, on n'a pas les moyens même de mesurer la différence. Donc ça n'a aucun intérêt, mais en théorie c'est faux. Vous utilisez une fausse formule, mais c'est une bonne approximation. Donc on peut très bien imaginer que quand on n'a qu'une partie des choses, ben voilà, on avait une fausse formule, mais c'était une bonne approximation. Mais c'était faux. Alors, Rabbi Akiva, lui, ils ont vraiment complètement tout vu, parce qu'on a l'impression que tout a été déployé. Et c'est simplement qu'on dit que les Mishnayot sont alibés de Rabbi Akiva. Ça veut dire la base de la Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire la Mishnah, et d'après Rabbi Akiva, qui lui a, il a vu la totalité des choses. Tu vois, Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui sait rendre compte de tout ce dont on peut rendre compte, semble-t-il, puisque lui, il explique les tagim sur les lettres, etc., les petites couronnes sur les lettres aussi. Eh bien, c'est lui qui a enseigné ce qui ensuite a passé à travers ses élèves et arrivé chez Rabbi Meir. Et puis maintenant, nous, on l'a sous Rabbi Meir, dans la formulation de Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, c'était quelqu'un qui, c'était un génie. Mais quand il est allé la première fois dans la yeshiva chez Rabbi Akiva, il n'a rien compris. Il était là, il ne comprenait rien.
Est-ce que tout a été conservé dans ce cas-là? Parce que si, quel serait l'intérêt d'avoir fait ce dévoilement à Rabbi Akiva et à ses amis si certaines choses de ce dévoilement n'auraient pas été ensuite transmises de quelque façon que ce soit, même si c'est très difficile et qu'il y a 99,9% des gens qui ont passé à côté, mais au moins qu'il y ait la possibilité pour nous également de découvrir, parce qu'à quoi sert dans ces classes.
Non, c'est sûr qu'il y a eu des pertes, mais probablement, vous savez, quand Moshe Rabbeinu a senti qu'il allait disparaître, il a appelé Yoshua, qui allait être son successeur. Il lui a dit, pose-moi toutes les questions que tu as. Je vais disparaître, pose toutes les questions. Alors Yoshua lui a dit, mais tu as écrit toi-même dans la Torah que j'ai jamais quitté le Beth Amidrash. Donc j'ai pas de questions, j'étais tout le temps là. J'ai tout entendu. Aucune question. Moshe Rabbeinu meurt. 3000 halakhot, il a oublié. Le peuple a voulu le tuer. Enfin, tu sais plus halakhot. 3000 halakhot. Seulement, il y a eu un Talmid Chacham qui, par la force de son pilpoul, de son raisonnement, a retrouvé toutes ces halakhot. Ça veut dire qu'il y a une forme de redondance dans le système. Le système n'est pas minimal. Ça veut dire que quand vous enlevez quelque chose, on peut reconstruire avec le reste. Bon, il faut une force gigantesque. C'est pas n'importe qui peut le faire. Mais il y a des maîtres qui sont capables de reconstruire les parties qui ont disparu, effectivement. Elles ne sont plus là. Et le système n'est pas un système minimal. C'est pour ça qu'il y a de la redondance. Il y a même... Alors, il y a des fois où, effectivement... Cette redondance, elle s'exprime dans, des fois dans la Gemara. La Gemara, tout à coup, la Gemara, elle dit par exemple, dans une certaine situation, elle dit, mais je peux faire un kal vachomer, c'est-à-dire je peux déduire quelque chose par un raisonnement a fortiori. Et si on peut faire un kal vachomer, eh bien le raisonnement qu'on a fait, il a force de loi exactement comme si les choses étaient écrites en toutes lettres dans la Torah. Mais des fois, la Gemara, elle s'aperçoit que ben voilà, j'ai un kal vachomer qui me permettrait de retrouver cette halakha là, et néanmoins j'ai un pasouk qui me le dit aussi explicitement. Et la Gemara répond. Quelque chose qui peut se déduire par kal vachomer, il arrive que la Torah tarach vekatav lakra. Néanmoins, la Torah s'est fatiguée, en quelque sorte, et elle a écrit les choses explicitement. Donc, il y a une redondance. Le texte en lui-même, si vous voulez, le contexte de ce verset-là, ou si vous voulez, si, imaginez, on enlève ce verset, eh bien, je peux le remplacer. C'est comme si on avait un tissu qui est tellement riche encore, tellement souple, que voilà, il y a un trou, on peut le combler. Bon, on peut faire une greffe, etc., et on va boucher le trou. Mais néanmoins, la Torah a jugé nécessaire, dans certains cas, de répéter. Alors, dans quel cas exactement, quand est-ce qu'on dit Tahar Vekatav Lakra, on a l'impression que c'est quelque chose, enfin, c'est écrit dans la Gemara, que c'est quelque chose qu'on ne dit que quand on n'a rien à dire d'autre sur ce verset. Donc, ce verset est visiblement une redondance. Je ne peux pas interpréter le verset pour qu'il dise autre chose que ça. Or, ça, je le sais déjà par mon Kal Vachomer. Alors, dit la Gemara, la Gemara dans Kiddushin, par exemple, elle dit, dans ce cas-là, on dira Tahar Vekatav Lakra. La Torah a été intentionnellement redondante. Encore une fois, pourquoi ici elle a été redondante, ça je ne sais pas le dire. Et il faudrait, pour bien faire, il faudrait regarder dans toutes les situations, est-ce qu'on sait dire pourquoi il fallait cette redondance à cet endroit-là? Alors, ça on peut le déduire, en tout cas, que c'est redondant. Il y a de la redondance. Maintenant, pourquoi elle est ici et pas là, dans le texte, ça je ne sais pas répondre.
À ce sujet, parce que vous disiez que Rabbi Akiva a tout l'éventail entier.
C'est le Passouk, c'est pas moi, hein. C'est le Midrash.
Bon, je veux dire qu'il y a deux questions, deux sortes de questions. Premièrement, je veux dire l'intérêt qui est guidé par le besoin. Pour répondre à des problèmes effectifs, réels, qui chaque fois peuvent être nouveaux, différents, amène à rechercher dans les cas, dans la Torah, des réponses aux problèmes qu'on n'avait pas tellement recherché pointu à l'époque, parce qu'ils n'étaient pas au centre de la nécessité. Ça, c'est la première sorte de question. Et dans la deuxième sorte, je veux dire, ça repose aussi la question des anciens et modernes. Je crois que de chez nous, on considère que la chokma le plus ancien est tellement grande qu'il est difficile de pouvoir dire alors qu'on il est dit dans le texte que si on est rabim, le mispar de chokma, bon, le mispar on peut le dire, mais le chokma c'est pas possible parce qu'ils sont anciens. Alors que la première question que j'ai posée, je voudrais dire premièrement, il faut stimuler l'ambition de tout le monde. Parce que si on ferme la porte en disant que c'est à la portée de Rabbi Akiva seulement et que quel est le travail qui peut être fait par de nouveaux géants dont nous avons besoin.
Je n'ai pas compris tellement la question, mais ce que j'ai compris, ce que j'en comprends de cette question, c'est pas Rabbi Akiva seulement, c'est Rabbi Akiva Bechaverav. Et Ravera, ça veut dire que Rabbi Akiva a pris soin d'enseigner les choses, et donc il a mis les choses à la disposition de gens qui n'étaient pas Rabbi Akiva. Et donc même si ça a transité, ça s'est descendu par rapport à Rabbi Akiva, bon, ça vient de lui, donc il a probablement nous a donné suffisamment d'éléments pour que, avec les éléments qu'il a donnés, nous soyons capables de répondre à toutes les questions qui vont se poser. S'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, ben peut-être ça fait partie des questions effectivement où bon, on ne connaît pas la solution.
Même des géants et des génies de l'Omiyakiba qui pouvaient voir des siècles en avant sur le problème, la problématique qui était contemporaine à lui-même, et sa vision globale était en avance, et il pouvait en même temps donc nourrir et préparer.
Mais on n'a pas du tout obligatoirement suivi Rabbi Akiva, vous savez. Nous, il y a une célèbre Gemara où Rabbi Akiva s'en prend littéralement à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Nous vivons encore aujourd'hui sur les décisions de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a mis en place les structures du galout. Comment le clan Israël va vivre, il était là lui au moment où c'est arrivé, après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Le monde s'effondre, il s'est effondré pour les Bnei Israël. Eh bien, Rabbi Elkanan ben Zakkai a pris des mesures. Il a discuté avec les Romains, il a obtenu certaines choses des Romains, d'autres choses, c'est des choses intérieures. Et un peu plus tard, Rabbi Akiva va s'exprimer d'une drôle de manière au sujet de Rabbi Elkanan ben Zakkai. Il va lui dire Mi yegale afar me'enecha Rabbi Elkanan ben Zakkai. Qui est-ce qui va enlever la poussière de tes yeux, Rabbi Elkanan ben Zakkai? Comment se fait-il que tu n'as pas vu que quand le général t'a demandé ce que tu voulais, pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé qu'il lève le siège? Et lui, Rabbi Akiva, il pense que c'est une erreur gigantesque. Il dit Mi yegale afar me'enecha. Qui enlèvera la poussière sur tes yeux? Comment tu as pu être aussi aveugle? Je ne peux pas le voir. Je ne sais pas pourquoi il a. Mais Rabbi Elkanan ben Zakkai, il a décidé, comme il a décidé, parce qu'il a pensé que les mêmes causes produisent les mêmes effets, et qu'avec les numéros spéciaux qu'il y a dans le clan d'Israël, d'accord, on aurait sous peu la même situation, et qu'on n'aurait peut-être pas une deuxième chance. Les Romains ne nous donneraient peut-être pas une deuxième chance. Donc il a décidé, ils étaient pour se battre, mais les fanatiques qui ont mis le feu au grenier, etc., dans Yerushalayim, on n'a pas le choix. On voulait pas, ils ne voulaient pas du tout pactiser obligatoirement avec l'ennemi. Mais bon, avec les gens qu'on a, on ne peut pas faire autrement. Et il a mis au point, si on est encore là, c'est grâce à Hachem, mais c'est les structures que Rabbi Elkanan ben Zakkai a mises en place. Et Rabbi Akiva, il le critique vertement, mais peut-être que Rabbi Akiva avait tort là-dessus. Lui, il était pour la bataille, pour la bagarre, il a participé, mais ça n'a rien donné, ça a donné des désastres, c'est tout. Lui-même, il en est mort de façon terrible. Et pourtant, il était le plus grand. Ça ne fait aucun doute qu'il était le plus grand. Mais même le plus grand n'a pas obligatoirement raison dans toutes les situations. Enfin, comme on ne peut pas faire de l'histoire fiction, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé si, effectivement, Rabbi Elkanan ben Zakkai avait fait ce que Rabbi Akiva dit qu'il aurait dû faire. Peut-être que Hachem aurait empêché que des fous, des fanatiques, etc., se lèvent chez nous et peut-être qu'on aurait eu la paix, peut-être qu'on aurait survécu, on serait resté en Eretz Israël, etc. Peut-être que non. On ne sait pas. Donc, seulement pour vous dire, c'est le grand Rabbi Akiva, mais chez nous, il n'y a personne qui est infaillible. On n'a pas ce dogme-là. Et donc, lui, il dit que c'était Rabbi Elkanan qui s'est trompé.
L'exemple même que vous donnez, ça manque d'autant plus qu'il s'agit des rapports avec les Goy et les Goy qui sont les ennemis, qui nous assiègent, que c'est une situation qui ne se reproduira jamais totalement, qui énorme, que la conjoncture
Non, mais ça, on sait déjà que les situations ne se reproduisent jamais à l'identique. Il y a un certain Héraclite qui a raconté ça, vous le savez bien. Donc, c'est jamais tout à fait identique. Mais on a suffisamment d'éléments pour cerner la nouvelle situation. Donc ce paragraphe, me semble-t-il, il vient dire ça. Il vient dire que on a l'impression que Hachem a donné un traitement de faveur à Moshe Rabbeinu, et on avait l'impression que le traitement de faveur portait sur la compréhension des choses. Alors, c'est le début du Midrash, mais la fin du Midrash dit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Rabbi Yossi dit tout ce qu'on a dit, c'est simplement que ce qu'a fait Moshe Rabbeinu va rester pour l'éternité. La parade de Moshe Rabbeinu va rester pour l'éternité. Mais la compréhension de Moshe Rabbeinu ne dépasse pas celle de Rabbi Akiva, au contraire. On a eu dans l'histoire, concrètement, des maîtres auquel Hachem a dévoilé des choses qu'il n'avait pas dévoilées à Moshe Rabbeinu. Cette idée de choses qui ont été dévoilées à des moments différents, elle est restée beaucoup, par exemple, dans la Kabbalah. où on dit que il y avait une Kabbalah au temps du Ramban, etc., et que elle a duré jusqu'à, disons en gros, jusqu'à Rav Moshe Cordovero. À cette époque-là, il y avait le Harizal à Tzfat, et le Hari a dévoilé des pans nouveaux de la Kabbalah, et le Ramchal par la suite lui dit que à lui on lui a aussi dévoilé des choses qui n'avaient pas été dévoilées au Harizal. Bon, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, et peut-être qu'il y a encore d'autres, je ne suis pas très au courant. Peut-être que par la suite il y a aussi d'autres maîtres qui vont dire qu'on leur a dévoilé des choses qui n'ont pas été dévoilées auparavant. Donc dans le système de la Kabbalah, il y a aussi un dévoilement progressif au cours des siècles. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas tout donné à la fois? Pourquoi les choses dans ce domaine-là? Alors peut-être qu'effectivement, la maturité nécessaire pour les percevoir comme elles devaient être perçues, ou peut-être que ces choses-là, elles-mêmes, ont maturé. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement que le Harizal il a ouvert une boîte qui était déjà là, mais que, dont personne n'avait la clé. Peut-être que c'est le travail des générations qui a fabriqué à la fois le matériau et le bonhomme Abitra Kloria, d'accord, pour qu'il puisse lui dire des choses qui n'avaient jamais été dites. C'est pas du tout sûr que ces choses-là étaient là et que elles ont elles aussi peut-être mûri. C'est pas seulement nous qui avons mûri. Les choses, elles ont peut-être évolué. Ce que eux ont produit, les générations précédentes, nous ne sommes pas capables de le faire. Or, ce que Rashi a fait, ce que Rambam a fait, etc., on ne peut pas le faire. Et Rashi, Rambam, c'est rien par rapport à Rabbi Akiva. Rien du tout. Parce qu'entre Rabbi Akiva et eux, il y a... Eux, c'est les Tanaïm. Après, il y a les Amoraïm, il y a tous les... toute la période des Géonim et encore des... etc. Ça descend. On pense qu'il y a Miout Adorot, les gens ont moins de force intellectuelle, de puissance, etc., que nous n'en avons. Mais peut-être que nous, on bénéficie...
C'est le rachat des mains sur
les côtés. Oui, c'est... J'ai du mal à l'utiliser parce que je ne sais pas très bien d'où ça vient. À un moment donné, j'utilisais ça. Je croyais que j'avais découvert quelque chose. Et après, quelqu'un m'a dit que c'était qu'on trouvait ça chez Thomas d'Aquin. Maintenant, j'ai entendu que ça, on le connaît depuis bien avant. Je ne sais pas qui a inventé ça. Ça circule au nom de plusieurs. Alors, je n'utilise pas l'image, mais vous avez raison. Je suis tout à fait d'accord.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas ramener ça au déroulement de la vie d'un être humain, c'est-à-dire que justement, est-ce qu'il y a bien des choses qu'on a pu produire à l'âge de 15 ans, de 20 ans, et qu'on peut produire à l'âge de 30, de 50 ans, tout ça, et reprendre en fin de compte c'est une image, c'est un schéma, cette historique, ce dévoilement qui se font, et en fin de compte, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'on peut produire à l'heure actuelle. Par rapport, on peut dire en fait que dans le rapport entre les différents dévoilements que peut avoir dans les différentes générations, ils savent que produit de nouveau dans chaque époque. C'est-à-dire que dans chaque époque, on a l'apport de ces générations précédentes et donc les rapports entre ces générations précédentes et entre l'évolution des générations précédentes. Qui sait qu'on a forcément quelque chose de nouveau dans l'histoire à découvrir. Et donc, voilà, vous savez penser un petit peu pour la même chose. Je pense que sur vous, ça a forcément de penser à l'économie. Bon, par rapport à l'économie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, en fait, ce que veut dire le texte pour en faire le texte, plus précisément, il y a des choses qui sont dévoilées d'une certaine manière. Elles sont déjà dévoilées. Il y a juste des gens qui peuvent allumer les lumières ou ne pas allumer d'une certaine manière.
C'est que je veux dire, pour, je suis un petit peu la problématique que j'ai essayé d'aborder, c'est que vous pouvez faire un parallèle pour ce que vous mieux illustré ma pensée dans la théorie du marché, la l'offre et la demande. Et il y a un partage. Il y en a qui pensent que c'est l'offre qui est déterminante, et il y en a qui pensent maintenant de plus en plus que c'est la demande qui est déterminante. Quoique je comprends très bien qu'on puisse avoir un infini respect pour les plus anciens et les plus anciens, la demande, elle, se dévoile dans l'instant, avec l'urgence d'une solution, et qui nécessairement, comme je vais dire, c'est dans une conjoncture différente, et que les anciens aient les prémices d'une réponse pour toutes sortes de situations. Je conçois. Mais ce n'est pas une édition de carottes, etc. Il faut bien que ceux qui vivent répondent aux problèmes du jour en s'appuyant dans la mesure du possible et en ouvrant de nouvelles portes par rapport aux coordonnées qui sont apparues différemment. Et je comprends qu'il y a encore
une fois
aussi. Et puis il y a une grande qualité, puisque Moshe Rabbeinu lui-même, ce qu'ils ont dit de lui, c'est qu'un art. Bon, mais ça, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ça. Ils voulaient s'enfermer par modestie et dire c'est pas bêtise que nous ne savons pas. Nous posons des problèmes nouveaux. En tout cas, d'une manière qui sont structurés d'une manière d'une complexité. Différente de celle que Rabbi Akiva pouvait envisager ou Rabbi Yohanan qui avait affaire à un seul empire et qui a siégé. Et nous avons une situation internationale maintenant infiniment plus complexe. Et nous sommes éparpillés dans le monde comme nous n'étions pas à ce moment-là. Et bien que nous soyons en effet des générations très faibles et par rapport à ces géants, il faut bien qu'on vive notre vie et qu'on assume la responsabilité.
La responsabilité, on l'a, ça ne veut pas encore dire qu'on peut trouver des solutions qui soient différentes de celles qu'ils ont trouvées eux. C'est pas sûr.
Je n'ai pas voulu dire ça. Différent. Mais parce qu'on parlait de dévoilement, d'ouverture,
oui.
Il y a la scène mondiale qui se dévoile, tout entière.
Ça, c'est pas ces ouvertures-là, on parle pas de ces ouvertures-là.
Oui, mais
on parle des ouvertures. Non. La situation, elle peut très bien être une situation dont les éléments sont nouveaux, effectivement, mais on a toujours des principes de base qui sont toujours les mêmes principes avec lesquels on est censé appréhender toutes les situations. Vous savez, la Gemara. Dans Makot, à la fin de Makot, la Gemara, on en a parlé déjà, je crois. La Gemara dit qu'on a 613 mitzvot. C'est une Kabbalah qu'on a 613 mitzvot, n'est-ce pas? C'est marqué nulle part. C'est Rav Safra qui dit qu'on a 613 mitzvot. On a une tradition, ça pose mitzvot. Mais on n'a pas du tout la liste, on n'a pas une Kabbalah sur la liste des 613 mitzvot. Alors ça fait l'objet d'une discussion entre, essentiellement entre le moment des Géonim et puis ensuite des Rishonim, d'accord, où chacun, tous les grands ont essayé de faire la liste des mitzvot. Et puis, évidemment, il y a beaucoup plus de mitzvot que 613. Et donc on est obligé de faire des choix. Donc il faut élaborer des principes qui vont permettre de faire ces choix. Alors les principes, justement, sur les principes en question, il y a les discussions entre Rav Saadia Gaon, entre le Rav Moshe Mikoussi et le Rambam et le Ramban et d'autres, qui ont pas du tout, ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Bien sûr qu'il y a des mitzvot qui se retrouvent partout dans tous les systèmes. Mais il y a des mitzvot qui sont pour les uns des mitzvot et pour les autres ne sont pas des mitzvot en tant que tels. Maintenant, le Gaon, lui, dit que toutes les mitzvot qu'on a sont en fait des klalim. C'est pas 613 mitzvot, c'est 613 klalim, en général. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une infinité de mitzvot. Seulement, il y a 613 catégories de... On a utilisé 613 principes. Et à la Gemara, elle dit, mais bon, c'était beaucoup trop compliqué de travailler avec ces 613 mitzvot. On a 613 mitzvot, mais on ne peut pas travailler au sens où, quand on a un problème, on ne peut pas traiter le problème en le confrontant aux 613 mitzvot. Regardez pour quelles mitzvot ont à voir avec ce problème. Là, on va passer en revue, là, tu mets en marche. Tiens, j'ai un petit problème. Je mets au moins en marche mon ordinateur. Il va faire une checklist de tous les mitzvot. Il va regarder les mitzvot, voir si ces mitzvot-là ont à voir avec le problème. Et puis après, je vais me retrouver. Ben, j'ai 52 mitzvot ici qui ont à voir avec ce problème. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, la Gemara dit qu'au fur et à mesure des générations, à partir de David Ameler, déjà, on a commencé à dire que. Bien 613 mitzvot, mais quand on veut traiter les problèmes, on ne peut prendre que 11 klalim, 11 principes. Et puis après, c'est devenu beaucoup, c'est beaucoup trop, on est descendu à 6, à 3. Et finalement, on est tombé sur un seul principe. On règle tous les problèmes avec un seul principe. Ce principe, il a été énoncé par le Navi Habakkuk. Donc ça ne date pas d'hier. Habakkuk a dit Ve tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, il vit grâce et par sa emuna, sa confiance en Dieu. Ça veut dire que le critère de décision dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes confrontés, et si c'est Habakkuk qui l'a dit, ça veut dire que Habakkuk, c'est un avis qui vit au moment du premier Beit HaMikdash. Ça veut dire que, par exemple, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Zakkai et tout le monde connaissaient ce principe-là. Ils ont fonctionné avec ce principe-là pour savoir ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que j'augmente ma émouna dans telle et telle situation. C'est comme ça que je dois réfléchir à une situation. La situation, elle peut être aussi complexe que je veux. Alors, ça sera plus ou moins difficile, mais la question que je dois me poser... Dans toute situation, c'est comment est-ce que j'augmente ma émouna dans cette situation? Comment est-ce que j'augmente la confiance? Comment est-ce que je vais prendre le problème pour que la résultante de ce problème soit une augmentation de ma confiance en Hachem? C'est ça le critère. Donc ça fait déjà des éternités, si vous voulez, qu'on fonctionne avec un critère. Alors comment on applique ce critère? Dans toute situation, alors on a un Shulchan Aruch, on a ça, mais quand je suis devant un problème, c'est ça le problème, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, est-ce que tout le monde applique ce principe? J'en sais rien. Mais dans tout cas, de la Gemara, c'est ça qui ressort, c'est que le problème qu'on doit, la façon dont on doit prendre le problème, c'est de cette façon, et ça c'est clair et net, c'est une Gemara Mefourechet, explicite, d'accord, après... D'après ce pasouk de Habakkuk, le tzadik be'emunato yichye. que le problème soit nouveau ou qu'il soit ancien. Alors le contenu de la Emouna, les problèmes d'Emouna qu'on a aujourd'hui ne sont évidemment pas les mêmes problèmes qu'on avait auparavant. Auparavant, on vivait dans un monde où pour tout le monde il y avait un Dieu, si vous voulez. Aujourd'hui, les gens ils ont inventé qu'il n'y avait pas de Dieu, etc. Les problèmes se posent différemment. Et nous, on doit réagir. Ça dit que Bemunato Ichye. Il faut se poser la question, comment est-ce que j'augmente mon Emouna dans une situation nouvelle, donnée. Mais c'est toujours le même principe. Donc ce principe-là, il est là. C'est bien d'avant Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, vous voyez bien que Rabbi Akiva, lui, pensait probablement que la situation qui augmentait la Emouna, ça aurait été de demander à l'empereur de lever le siège. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pense que, avec ce même principe, lui, il arrive à une conclusion différente. Il dit non. Moi, je pense que il faut avoir confiance que, avec ce que je demande là, avec une construction de Emunat Rachamim, etc., on va y arriver. Et ça, je sais que je peux l'obtenir. Et donc, je pose les bases. Tandis que Rabbi Akiva, il ne pose pas les bases. Il dit, on va rester dans l'état dans lequel on est. On va simplement demander aux Romains qui lèvent le siège. Et qu'est-ce qui va se passer après? On voit très bien que c'est des problèmes. Le problème, c'est souvent, c'est pas les goïms, c'est les juifs. C'est les juifs. Ils sont un peu spéciaux, les juifs. Ils font des problèmes. Et je disais hier dans le journal que qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur les banques, les goïms qui ont floué, qui n'ont pas rendu l'argent aux juifs. Pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, il y a des banques israéliennes qui ont fait exactement la même chose. Et maintenant, on vient les obliger à rendre un peu d'argent aux juifs. Ils ont spolié les juifs. Les banques israéliennes. C'est les juifs. Là, on crie sur les goïms, etc. C'est nous. Chez nous. Bien sûr qu'il y avait les banques israéliennes. Les banques juives qui ont pris d'autres noms, les Oumis, on s'appelait Anglo.
Et les gens sont morts entre-temps.
Bien sûr, et quand leurs enfants sont venus, ils ont réclamé, on leur a dit non, c'est pas vous, etc. Le gouvernement et les banques se sont arrangés pour ne pas donner l'argent. Maintenant, il y a des gens qui commencent à leur tirer l'argent. Ils viennent chez nous. Le problème, c'est... Il y a beaucoup de problèmes comme ça, malheureusement. Donc, là, on a plutôt l'impression que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a bien joué. Rabbi Akiva, semble-t-il, il pariait sur... C'était lui, le plus grand. Peut-être que... C'était peut-être pas le plus grand politique, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le pire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que les Chachamim restaient critiques même après. Rabbi Akiva, il se permet d'être critique sur une situation. Pardon ?
Sur le moment précis.
Il est un peu après.
Ouais.
C'est-à-dire, ça y est, c'est terminé, on ne peut plus le rattraper. Il n'était pas là en train de dire, mais tu aurais. Bon, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était tout seul, c'est lui qui a décidé.
Tu peux justifier, parce que l'implantation même, la façon dont il va se positionner par rapport aux gens, était une vision.
Lui, il a fait la guerre.
Le vol contre Rome, jusqu'à. Mmh. On était à prendre des risques colossaux.
Et en tout cas, les gens n'étaient pas à la hauteur de ce que Rabbi Akiva voulait faire. Bar Korba n'a pas été à la hauteur de ce que Rabbi Akiva voulait faire.
Mais apparemment, il y a cette problématique-là, elle n'était pas seulement au niveau de
peut faire abstraction de la puissance et de l'efficacité des technologies à chaque fois. Est-ce que c'est possible?
Mais qui demande de faire abstraction? Personne ne demande de faire abstraction.
La vision de l'univers nous apparaît aujourd'hui avec les instruments qu'on a et qui permettent d'aller à des milliards d'années-lumière en arrière.
Mais on est toujours là.
Oui, dans notre petitesse, c'est bien. Au contraire, ça nous permet de voir à quel point nous sommes petits.
Mais ça c'est pas mal.
L'univers global qu'a jamais fait.
Nous.
Ça nous ramène à une modestie plus grande.
Nous, alors ?
Mais en même temps, une conscience des énergies nucléaires qui ont été envoyées et qui sont extrêmement dangereuses, parce que le soleil nous menace avec.
Mais ils sont dangereux pour nous aussi, hein ?
Extrêmement dangereux pour nous.
Non, pas seulement à cause des sonimes. Ça dépend aussi de ce que nous, on va en faire de tout ça. Je ne sais pas du tout si c'est important ce que les sonimes veulent faire. Le problème, c'est qu'est-ce que nous, on est ? Est-ce que nous, on joue notre rôle dans le monde ? Et qu'est-ce qu'on veut faire, nous ? Quel est le plan des Bnei Israël ?
C'est folie.
On va rester sur la parade demain. C'est plus sûr.
Il y a quelque chose que je n'arrive pas par contre à associer là. On est en train de parler de cette problématique. Hein. Elle semble être liée dans le Midrash avec cette histoire de parade humain, de Moshe, qui elle restera. Et quel est le lien qu'on peut faire avec
on ne parle que de ça. Hein. Tout le Midrash est au-dessus, autour de la parade Adouma.
Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette parade Adouma ?
Il y a le problème de la mort.
Ce dévoilement.
Il y a le problème de la mort. La parade Adouma, c'est comment on fait quand on a été en contact avec la mort pour retrouver, pour rentrer dans la vie courante.
Et de la lumière.
Pardon ?
Et de la lumière, on est d'accord, mais.
Et de là ?
Et de la lumière aussi, parce que.
Oui.
Est-ce que ça fait par référence au Kivu, quand Rabbi Akiva était avec les trois autres parades, justement que lui, il a dit qu'il a pu redescendre.
Les phrases de Shalom et la phrase de Shalom.
Puisqu'on ne connaît pas le sens, on ne connaît pas comment fonctionne la parade Adouma. On ne sait pas, c'est un truc de la magie. Mais non, mais ce n'est pas de la magie. Alors on dit, premièrement, Moshe Rabbeinu, le début du Midrash, c'est Moshe Rabbeinu, il savait. Hachem l'a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Donc un homme peut concevoir. Il faut être peut-être Moshe Rabbeinu, mais on peut le concevoir. Et, pardon ? Oui. Et puis après, on dit, mais en vérité. Mon cher Rabbeinu, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Et Rabbi Akiva, hein, il les connaissait, ces choses-là. Donc il y a un problème. Mon cher Rabbeinu, ce n'est pas celui qui connaît tout. Finalement, lui, il pense, Rabbi aussi, il pense que non, ce n'est pas qu'on a dévoilé à Mon cher Rabbeinu un tam que les autres ne connaissaient pas. Le tam, on le connaît, Rabbi Akiva, il le connaît aussi. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, mon cher Rabbeinu ? C'est que ce que lui, il a fait, reste pour l'éternité. C'est-à-dire la para Adouma que lui a faite, cette para Adouma, ces cendres-là, les cendres des para Adouma, des vaches rousses qu'on aura faites par la suite, vont disparaître. La sienne, ces cendres, les cendres de la para Adouma qu'on a fait en son temps, au temps de mon cher Rabbeinu, ça va rester pour l'éternité. La paradouma, c'est ce qui nous permet de nous purifier d'un contact avec la mort. C'est-à-dire qu'en fait, disons que le contact avec la mort, c'est quelque chose qui obscurcit, si on veut. Ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Bon. Et la paradouma, c'est ce qui va ouvrir justement et permettre d'être complètement nous-mêmes. C'est quelque chose, ça remet de la lumière, pour aller dans le sens de ce que disait Serge. D'accord ? Ça, il y a de nouveau de la lumière. Et c'est ces images où Hachem dit, je vais prendre des aveugles et puis je vais les mener par des chemins qu'ils ne connaissaient pas du tout et on arrivera à une forme de lumière.
Et comme dit Israël,
Oui. On les a toutes faites à partir de la sienne, mais on aurait pu imaginer, bon, une fois qu'on en a fait une autre, c'est comme, pourquoi est-ce que un homme disparaît, bon, il a eu des enfants, il y a des petits-enfants, après lui il disparaît, bon, il continue à travers ses enfants, on pourrait imaginer la parade de Moshe Rabbeinu, elle continue à travers les parims qu'on a fait, les parotes qu'on a fait après lui. D'après la sienne. Bon, il n'en est rien. Ce qui se passe, c'est que c'est celle-là qui reste. Bon, on peut se demander pourquoi celle-là reste. Pourquoi elle ne continue pas avec les autres.
Parce que c'est le texte instructif, parce que c'est lui qui l'a écrit la croix. Il l'a fixé. J'en ai un. D'une part. Et par ailleurs, vous disiez tout à l'heure pour le Tayag Mitzvot. On sait bien que la plus grande partie des Mitzvot sont attachées au Betamidash.
Alors?
Alors, il faut le connaître, il faut, dans la mesure possible, comprendre. En espérant qu'un jour, les travaux pratiques.
Mais on comprend.
Oui.
Ça, on peut expliquer. Mais
oui.
D'après ça, on peut toutes les expliquer, sauf par Adouma.
La réalité de notre vie fait que. Le contact, la purification de la paradouma.
On l'a pas.
Très loin de nous.
Oui, parce qu'on l'a pas. Et nous, on est.
Et qu'il faut pourtant traverser des millénaires, 2000, et puis on ne sait pas combien encore, dans cet état où il y a d'autres problèmes extrêmement urgents.
Oui, mais ces autres problèmes, on peut plus facilement les résoudre. Ce problème-là, on ne sait pas le résoudre parce que la seule solution, c'est une paradouma et on n'a pas de paradouma.
Et pourtant, on survit.
Personne n'a dit qu'on mourait. On a seulement dit qu'on était impur. Ça veut dire qu'on n'a pas tous nos moyens. C'est ça, pour voir qu'on n'a pas, qu'Israël n'a pas tous ses moyens, il n'y a pas besoin d'être grand clair. On voit bien qu'Israël ne fait pas tout ce qu'il devrait faire, et qu'il n'a pas les moyens.
Mais c'est le seul Israël.
Pardon ?
C'est le seul Israël qui existe. Il n'y en a pas besoin.
Oui.
Il y a rien.
C'est ça le galout. Le galout, c'est qu'on est dans une situation où on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire. La question, c'est savoir ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on devrait faire. Le grand problème, c'est est-ce que le galout nous dérange.
Et en attendant, on est dans un danger.
Arrêtez d'enlever le danger.
Mais comment
enlever le danger, arrêtez.
Mais
qui menace, il ramasse. Il ne vous menace pas. Il veut vous faire peur, c'est tout.
Il faut revoir à bas coût.
Il veut vous faire peur. Mais c'est pas ça, d'abord le problème, il n'est pas avec l'Iran, ça fait des siècles qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Ils ont toujours voulu nous tuer depuis longtemps. Adolphe, il voulait nous tuer, il n'avait pas la bombe atomique.
Il a failli l'avoir.
Ouais, il ne l'a pas eu.
Et celui-là, c'est Ramadan, il l'a.
Mais oui, il ne l'a pas. D'abord, il ne l'a pas encore. Et deuxièmement, c'est des projets d'Hachem, ça. C'est pas.
Alors, il a raison de dire que tzadik Bemunato, il faut.
Mais le tzadik, c'est pas. Le Bemunato, ça ne veut pas dire. Je peux rien y faire, alors bon.
C'est pas un homme d'action, c'est pas. Déjà, Noach a construit une arche. Alors,
il n'a pas construit une arche de lui-même.
D'accord. Eh bien, il faut pas se ranger tout de même qu'un homme essaye de c'est sa responsabilité.
Est-ce que vous croyez qu'on va s'agir
par rapport au
Quand on va sauter sur nos chaises, ça va arranger les choses?
comme le cabaret, je l'ai dit de l'école.
Ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, je comprends cet enseignement-là comme l'homme doit faire tout ce qu'il veut pour s'en sortir.
Où est-ce que c'est marqué ça?
Non, c'est moi, je suis
marqué. Ah, c'est vous. Midrash Ilan. Il y a tellement de choses qui ne sont pas calculables. On a fini de penser au calculable. Ouais. Ok, on va s'arrêter là.